Chapitre 11. Jonas croyait en Dieu. Il tint à me le faire savoir dès le début. « Et lui avais-je demandé, croit-il en toi ?» Il me répondit d'un rire, un peu trop copieux comme pour me prouver sa parfaite décontraction. Dieu étant le sujet épineux par excellence, je n'avais pas trop envie d'une énième discussion stérile. Mais il insistait, m'énumérait tous les avantages qu'il habitait depuis qu'il avait trouvé Jésus. Après tout, m'étais-je dit, tant qu'il ne m'obligeait pas à jeûner, à me repentir d'un péché que je n'avais pas commis, à me fouetter jusqu'au sang, à trouver des qualités au moindre quidam, à m'immoler ou à me crucifier, j'avais toutes ces raisons pour le laisser croire. Il m'incita de nombreuses fois à donner un point de vue que je n'avais pas, tout en m'expliquant que toute vie étant égale à la sienne, je pouvais délivrer mes sentiments sur la question. Me confesser, en fait. C'était le message. Il avait reçu de Dieu. Depuis que Jésus était en lui, tout coulait de source. La vie devenait limpide et joyeuse. Moi, avais-je fini par lui dire, je me farcis tout le travail. Jésus ne m'habite pas. Il doit choisir les justes, les innocents, les méritants, les opprimés ou les faibles. Peut-être n'ai-je pas assez de place pour le loger. Il doit considérer la résidence insalubre, y trouver trop de détritus, d'amertume, de doute. Et puis, il t'a. Jonas ne me trouvait pas drôle. Lassé de m'entendre blasphémer, il parla d'autre chose et porta sa croix. Je l'apaisai d'une main sur l'épaule, un geste qui m'était inconnu jusqu'alors, lui parlait d'un lointain séjour à Whistler. Une station de ski au nord de Vancouver, où j'avais organisé une escapade au mois de novembre quelques années auparavant. J'étais accompagné de trois hurluberlus de mon acabit, riches et industrieux. Pendant une soirée un peu plus festive, nous avions trouvé chic et choc de claquer quelques salaires minimums de l'autre côté du continent nord-américain. Sentiment de puissance affirmé, revendiqué dont nous n'étions pas peu fiers. Ne pas se fixer de limites, profiter de nos privilèges, donnait à notre vie une force étrange, une sorte d'invincibilité à défaut de lui apporter bonheur, paix, sommeil profond, rêve enchanté et sérénité. Ainsi, nous avions l'impression d'exister davantage, de brûler la vie comme d'authentiques jouisseurs. Mes camarades se lancèrent dans l'aventure sans aucun complexe, et ce, malgré leur manque de compétences sur des planches. Ils étaient persuadés d'être bons, comme c'est le cas pour de nombreux amateurs qui, en regardant les autres, pensent pouvoir faire la même chose, et en mieux, bien entendu. Pour l'essentiel, ils n'auraient qu'à suivre les guides que nous ne manquerions pas d'affréter, de graisser, de moquer pour découvrir la station. Il suffirait de crier « Youpi » à chaque virage réussi. Nous avions ski ensemble les deux premiers jours. Ensuite, j'avais pris mes dispositions pour jouer seul. Mes camarades avaient les skis plus grands que leur talent. À force de prendre gadin sur gadin parce qu'ils s'entêtaient à dévaler des pentes trop bosselées, trop abruptes et bien plus vite que leurs ombres, ils avaient conclu que le matériel loué était de mauvaise qualité, qu'il les poussait à la faute. Sans grande conviction cependant. Ils acceptaient mal mon niveau supérieur. En réalité, je n'avais aucun mérite. Bercé dans un milieu montagnard, dès l'âge de 4 ans, mes parents m'incitèrent à les imiter. Avec un bonheur qui ne me quitta jamais, je découvris mes premières glisses. Comme à les entendre, ils n'avaient pas l'équipement adapté, que je les avais snobés, embarqués dans un traquenard pour les ridiculiser, ils s'adonnèrent au ski-bar. L'après-ski, avant et pendant, boucla leur séjour dans la bonne humeur et dans les vapeurs. Jonas écoutait attentivement ma narration, fleurie de quelques anecdotes dont les brouteurs de neige étaient les héros. Il riait et s'amusait sans la moindre moquerie. Cela me surprit. J'attendais de lui une forme d'empathie bienveillante et distante, une sorte de charité chrétienne, comme un témoignage de sa bonté, de sa compréhension pour ces drôles un peu ridicules. Rien de cela, sa joie, sa bonne humeur n'étaient pas feintes. Il posait les choses au bon endroit, sans a priori, ne retirant que le bon grain, se gardant d'un jugement tutélaire, forcément parcellaire. Le sentant ouvert, bien moins doctorant que mes premières impressions l'avaient laissé supposer, je lui avais alors dépeint mes trois amis sans trucage. Pourtant, tout comme moi, il n'avait rien pour plaire. Facile de comprendre qu'un homme qui calcule tout, s'arrange pour tirer profit de tout, n'a d'intérêt que pour lui-même. Facile de comprendre qu'un tel homme inspire la haine, le mépris et toutes sortes de sentiments négatifs. Rien de cela chez Jonas, pas la moindre animosité envers les profiteurs du système, seule la main de Dieu décidait, nous devions nous y soumettre. Sur le coup, il m'avait fait peur. ni insincère, ni juge à tous les coups. Il attendait le moment propice pour m'égorger, me faire expier. Dieu ne pardonne pas, ou s'il le fait, ses affidés ne le font pas. Bien évidemment, j'avais tort. Il était skieur, passionné de glisse et connaissait très bien Whistler. Nous pûmes échanger longtemps nos impressions sur l'immense domaine skiable, si à quelques encablures de son lieu de villégiature. C'était un paradis pour les amateurs de hors-piste. Un hélicoptère me déposait sur des sommets de ci de là pour me permettre de longues descentes virginales. Chaque plein, chaque dévier découvrait ma trace. L'essentiel pour un freerider, son but, sa dope. Être le seul élément perturbateur, marquer son territoire, s'imposer à une nature sauvage dont je n'avais rien à battre. Le coup d'œil exceptionnel, la grandeur des lieux, l'humilité qu'ils inspirent pour un humain resté humain et la sérénité qu'il en retire, rien de tout cela à cette époque. Rien qu'un décor pour mon bon plaisir. J'avais même loué une motoneige pour faire du bruit, perturber les bruissements feutrés, arroser le tout de quelques gouttes de pétrole. J'étais fier. La beauté, c'était trop compliqué pour l'homme que j'étais. C'était au site de me découvrir. Du caviar pour un friqué qui boit des bulles, s'enivre d'étiquettes, se montre, parade, exerce le pouvoir sur les autres, à défaut d'en avoir sur lui-même. Pour ne pas que Jonas s'assoupisse au volant, d'autant qu'il m'avait promis une surprise au petit matin, je lui parlais des stations alpines que je connaissais plutôt bien. Pour boucler les derniers miles, nous avions même parlé encore de ce dieu qui l'accaparait, lui transmettait ses ordres en direct, lui pardonnait tout, lui évitait une vie merdique, tandis que j'en étais encore à chercher le sens de la mienne. Sans doute voulait-il parler de la direction. Le sens dépend des interférences, nous n'y pouvons pas grand-chose. Ajouter la somme de nos désirs mimétiques, mélanger le tout et se perdre définitivement dans des conjectures tout aussi farfelues les unes que les autres. Mais ça, je ne l'avais pas dit à Jonas, parce qu'en quelques heures, j'avais découvert un chic type. Un spécimen d'être qui honore l'humanité. Je ne voulais pas gâcher le plaisir de l'avoir trouvé. Un peu comme les champignons, les humains, faut chercher pour avoir les bons. Parfois, ils se cachent, parfois, ils se montrent. Parfois, on les écrase, parfois, les voilà qui vous laissent des raisons d'espérer encore quelques années. À la sortie de Calgary, tout ne s'était pas passé comme prévu. En marchant de longues heures sans trouver le moindre embarquement, je m'étais demandé 100 fois à quoi bon. Petit à petit, le moral s'absentait, la déprime me gagnait. Pour la première fois depuis le début du voyage, j'ai envie de faire demi-tour, d'oublier ce projet qu'il me semblait plus initiatique, de regagner mes pénates humblement et de vivre le reste de mon âge parmi les hommes ordinaires. Je me fanerai sans protester, sans m'indigner, sans chercher à sortir la tête, et j'attendrai que ma lente déliquescence me soulage de cette charge vitale, de ce souffle tellement embarrassant de nombreuses circonstances. Les moments de spleen, quand le passé vous hante, quand il vous submerge d'amers regrets, qu'il vous demande « Mais pourquoi l'as-tu fait ?» Voilà le temps qui se traîne en langueur, en si itératif. Voilà un réflexe cognitif creusant au plus profond en croyant poser les bonnes questions, toutes vêtues d'hypothèses à vous casser la foi. Ce qui vibrait encore vous met dans le doute. Et si je l'avais fait, aurais-je dû le faire? Tandis que mes pieds endoloris me brûlaient. Pas si bien remis de ma raclée, mon corps ployait plus qu'à l'accoutumée sous la charge du sac. Il s'était appesanti. Ma méforme, que je savais pourtant passagère, me poussait à ne plus faire un pas, me clouait en bordure de route. Mes yeux s'éteignaient. Devenu vague, il ne fixait rien d'autre qu'un horizon merdique. Ainsi jusqu'à la nuit tombée. D'ailleurs, je m'étais promis de faire demi-tour dès le lendemain, si d'aventure le hasard ne m'accordait pas un drive. Je prendrais ça comme un signe. Pourtant, j'avais été très motivé à l'idée de revoir l'île de Vancouver. Je pensais même ma détermination totale. Comme d'habitude, ce fut qu'une fois le moral dans les chaussettes que ma destinée changea de cap. C'est en général, quand tout va mal, au moment où l'on va se ramasser, qu'un picador vous larde pour vous propulser de rechef à la surface. Un rail de coque sans poudre. Instinct revanchard sur le sort s'acharnant, ou fibre guerrière, ou chevalier noir refusant la défaite, ou tout bonnement un cycle donnant un regain de forme positive à votre chaîne d'existence. Coralie appelait ces états les vagues de l'âme. Elle disait aussi que plus les hauts étaient éloignés des bas, plus belle serait la vie. J'avais donc attendu toute la journée un chauffeur. Ne voyant rien venir, avant de m'allonger dans un fossé pour passer une nuit hachée de somnolence, je m'étais assis sur mon sac, perdu dans de noires pensées. Un avertisseur me fit lever la tête. C'était Jonas et son monstre d'acier, une Mustang dernier modèle avec, je l'appris plus tard, un moteur survitaminé. Me croyant en difficulté, il était sorti de son bolide pour me porter secours. Inquiet, il m'avait d'abord tapoté l'épaule, mais comme je n'étais pas encore mort, il m'offrit un sourire amène et riche en bienveillance. Rassuré, bien que je ne lui sois rien. La suite me prouva que chez lui la compassion était un état d'esprit quasi indispensable à son équilibre. Chacun transpire une odeur différente. Cela devait être l'odeur de sainteté. J'acceptai la main avec gratitude. Elle me releva tout simplement et je fus content d'apprendre qu'il pouvait transporter le paquet jusqu'au Pacifique. Ma seule mission était de ne pas dormir pendant le voyage. Un stop d'un millier de kilomètres étant inespéré, je ne pris même pas la peine d'y réfléchir. Il devait s'arrêter en route voir des amis, nous pourrions dormir quelques heures. Je m'étais senti requinqué d'un coup. L'homme m'inspira confiance. L'avenir s'éclaira avant que je ne redevienne un Shadok auto-satisfait du simple mouvement de l'existence. Puis Jonas me promit une surprise à laquelle je ne pouvais avoir pensé. Malgré mon manque d'entrain pour les surprises, je lui fis la grâce d'être curieux, tout en lui montrant un semblant d'impatience. Ainsi fut dit, l'aventure pouvait perdurer. Il s'arrêtait souvent pour se détendre, récupérer, faire quelques pas en trottinant, 2-3 assouplissements, de profondes respirations, une gorgée de boisson énergisante, une petite claque qui fouettait son visage en y laissant des traces de doigts. Pendant ce temps, je dormais quelques minutes. J'avais appris à le faire en naviguant la nuit sur un yacht de croisière. Parfois, je me dépliais pour l'imiter. En tout cas, nous restions éveillés, assez volubiles pour ne pas piquer du nez, sortir de la route en criant trop tard, fallait y penser avant. Le physique athlétique de Jonas suggérait des heures et des heures d'exercice, à mon sens ennuyeux. Il se tenait droit, chacun de ses gestes était précis, de l'homme émanait une énergie dont je pris quelques miettes pour me revigorer l'âme. Elle en avait grand besoin tant elle s'était noyée de désespoir en s'observant le nombril. Avec cette personne, j'avais oublié ma grosse déprime en quelques heures. Je m'étais tellement conditionné à globe-trotter de toutes mes fibres que l'idée d'un possible échec m'avait terrassé. Stupide alors qu'il m'était possible de choisir une autre direction à tout moment, de réintégrer la société normalisée et basta cosi. Je devais avoir gardé en moi de vieux restes de ténacité qui sourdaient de cette époque quand le renoncement n'était pas une option. Il me proposa de prendre le volant, mais je refusais. Sa proposition sentait comme un goût de sacrifice, presque un don de soi, tant sa charrette avait dû représenter l'éclosion d'un rêve. Mes prétextes fallacieux, je n'ai jamais piloté ce type d'engin, ce ne serait pas raisonnable, je n'aime pas rouler, ça fait plus d'un an que je n'ai pas conduit. Lui suffire, et il loua même ma prudence. Je l'avais senti soulagé, libéré d'un poids. Son besoin d'être agréable, de faire plaisir à son prochain, devait avoir atteint les limites. Avoir et se sentir être, avoir rien que pour soi. Difficile de rompre le pain dans ce cas. Il me regarda intensément en me souriant. Il n'était pas dupe, me remercia à sa manière. Un regard franc, loyal, fidèle, la gabelle nette, peut-être épilée. Un regard profond, comme une invitation à la confidence. Maintenant que je savais qu'il souffrait de ce paradoxe de l'homme pieux, bien trop animé par l'inanimé, il attendait ce qui ne viendrait pas. Ose te confier, je saurai te comprendre, partager tes peines et tes joies, faire miennes tes douleurs. Ses yeux disaient toutes ces choses chrétiennes comme une transpiration avec une conviction déroutante pour l'infidèle que j'étais. Probable que nous avancerions tous deux sur le chemin de la félicité. Je trouvais ce bonhomme de plus en plus attachant, mais il m'inquiétait. J'avais tellement convaincu de gens en mimant, sans autres explications qu'une apparente bonne foi, une humanité à sidérer la méchanceté du monde, que ma confiance envers l'autre s'était volatilisée à jamais. D'ailleurs, à cette époque où je pensais que tous les moyens faisaient l'affaire pour arriver à mes fins, je me rasais la gabelle. Sans compter le prosélytisme qui me guidait. Mon Dieu à moi s'échangeait de gré à gré entre banques de bonne compagnie dans des coins paradisiaques. Certes, je m'étais enfui, mais ce dieu prospérait encore. La Ford Mustang rutilante, extrêmement onéreuse de Jonas, le plaisir retiré, non dissimulé, en était l'illustration. Comme je ne me racontais pas, il se raconta. C'est fou ce que les petits airs récoltent de confidences. Ainsi, j'appris qu'il était trésorier d'un richissime pasteur officiant au pays de la bannière étoilée. Il s'occupait de la moisson canadienne. Il me dépeignit en confiance avec des détails que je n'aurais jamais dû connaître l'organisation, ses coutumes et les quantités astronomiques de fric comme de dons qu'il arrivait à soutirer aux fidèles. Ce pasteur s'entourait de séides dans le monde entier, lui garantissant, outre une protection sans faille, une impunité totale. L'homme avait, en effet, une fâcheuse tendance à sortir sa bite devant les jeunes filles impubères. Cela avait un coût, d'où le prix exorbitant des prêches. Les parents ne posaient jamais de problème, il suffisait de leur allouer une fonction, une prime et une place dans l'église. Tout ceci n'étant que supposition. À entendre Jonas, il ne s'agissait que de rumeurs infondées, soutenues par quelques articles publiés dans des torchons. Le père étant un saint homme, incapable de tels comportements. Mouais, m'étais-je dit, peut-être bien. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Mais je n'avais pas voulu aller plus en avant. Je le questionnais sur sa famille. Au petit matin, je savais tout, ou presque. Sa vie avait été une succession de malheurs à faire chialer les âmes sensibles, à inspirer les dramaturges. Parents décédés le jour de ses 10 ans, et demi pour être précis, petite sœur trisomique élevée par une tante conne à tout faire, grand frère flic assassiné lors d'une rixe le jour de ses 15 ans, meilleur ami suicidé le jour de ses 20 ans. La vie, quoi. Une question me brûlait les lèvres, mais je ne l'avais pas formulée. Et Dieu dans tout ça? Mais Jonas ne voyait pas de contradiction. Il m'aurait parlé des preuves, de soutien dans la prière et de tout ce que je considérais, peut-être à tort, je le concède, comme de grosses conneries pour endormir l'injustice, donner un sens à l'espérance. Je n'avais aucune raison de le gonfler avec mes persiflages. Je me tus. Nous arrivâmes enfin au terme de notre étape, épuisés par la veille, mais plutôt heureux des heures que nous avions passées ensemble. La surprise de Jonas était de taille. Comme il le supposait, j'ignorais la présence de Sepp dans ce coin perdu. J'ignorais, comme tout bon franchouillard, qu'il puisse y avoir des vignobles de qualité ailleurs que dans l'Hexagone. Herbert, le caviste, était très fier de ses origines, très fier de sa lignée. Il admirait ses grands-parents, tête plate, issus d'une tribu semi-nomade vivant jadis de la pêche au saumon et qui avait eu l'intelligence de s'unir avec une trentaine d'autres tribus pour vivre en harmonie dans cette partie du Canada ainsi qu'au nord des USA. Il m'avait parlé d'eux au présent, bien qu'ils ne soient plus de ce monde. Leur esprit veillait, protégeait le petit-fils, ou en tout cas le tenait par la main. Pourquoi être fier alors que tu n'es en rien responsable de tes origines? Pur hasard qui t'agrée, rien d'autre. Un peu pris de court, il m'avait répondu, ou plutôt répandu, quelques formules trouvées dans les livres d'histoire. Fier de l'intégration réussite et désormais saliche de l'intérieur, ils avaient su s'extraire de ce cloaque qui frisait l'apartheid, fiers de leur résistance face aux maladies d'importation qui décimèrent une partie d'entre eux, fiers d'un sang qui coulait dans ses veines comme des valeurs transmises. « Well », avais-je répondu en souriant pour conclure et passer à d'œnologiques sujets. Les amis de Jonas étaient un couple de vignerons franco-anglais. Ils nous reçurent tels des princes. Adorable, attentionné comme c'est pas permis, chez les cyniques des bacs à sable au quartier latin. John et Fabienne firent tout pour que nous puissions passer une étape à la fois reposante et agréable. Leur amour tranquille calmait crainte et appréhension en exhalant sans doute le parfum d'une infinie sérénité, d'un immédiat satisfaisant. Les deux tourtereaux s'étaient apprivoisés dans le Médoc, au château de famille de Fabienne. Le jeune Anglais, quoique passionné par la vigne, perdit pied devant la belle au point de ne plus rien envisager sans elle. Il inspira profondément entre deux coteaux et demanda au père, maître des lieux, la main de sa fille, comme il l'avait vu faire dans les films de Cap et d'Épée. Fabienne ne s'en sépara plus. Elle lui tendit sa dextre, l'accompagna sans retenue, sans condition, sans promesse, puisqu'elle sut tout de suite qu'un mot de John était en soi une promesse. Elle le suivit au bout du monde. Là où les saliches de l'intérieur se plaisaient. De fait et de toute manière, le domaine de France était devenu trop petit. Et puis, il faut bien le dire, elle ne s'entendait pas trop bien avec son père, autocrate, et ses deux frères. Surtout le cadet, plutôt crétin et très pénible, parce qu'il ne pensait pas l'être. Les hommes l'encouragèrent, tête droite et geste auguste. « Va, ma fille, va, ma sœur, là-bas aussi le soleil brille. » Sa mère pleura un peu quelques jours en attendant la messe du dimanche pour la remettre dans le bon chemin. Le droit où chacun s'enchaîne pour ne pas s'écarter des us et des coutumes. C'est ainsi que John et Fabienne bâtirent un vaste nid, lequel suscita lors de courtes visites quelques regrets amers de la famille aimante qui, après s'être débarrassée d'un embarrassant partage, aurait bien voulu partager. C'était juste trop tard. Fabienne avait de la mémoire. Quand c'est le cas, il est facile de pardonner, mais il est impossible d'oublier. Nous visitâmes ce fabuleux vignoble où s'activait du personnel à l'image des propriétaires, souriant, affable. Le couple choyait son domaine comme un enfant désiré. Un enfant qui tient ses promesses, répond aux attentes déposées dès le berceau sur son chef. Herbert nous fit déguster un nombre interminable de cuvées, puis nous alita, l'éthanol en excès et la fatigue nous ayant terrassés. Pressé de rien, j'attendis, déambulant de pied en pied, que Jonas reprenne la route. Durant ces jours heureux, outre la propriété, l'œil aux aguets, je découvris le site alentour. Avec la ferveur d'un enfant qui découvre au petit matin le sapin de Noël chargé de surprises, autant que d'inutile abondance pour le foie. La vallée de l'Okanagan, endroit paradisiaque comme il en est temps quand on a une paire d'yeux, un cœur sensible à cette imbrication subtile et fabuleuse qu'exprime souvent le milieu naturel, m'enchanta au point de m'y voir prendre mes dernières racines. C'était un espace où le souffle long et apaisant des battements heureux vous fige, où vos pas s'unissent à la terre le temps de l'éternité. Tout n'est que mélodie, apaisement, repos de l'âme, quête de sens, enfin la paix désenchaînée, l'envol des croyances incertaines, des idées inutilement complexes. La vallée était, pour l'essentiel, couverte de vignobles. John et Fabienne s'étaient plantés sans hésiter sur la rive ouest du lac. Ils n'eurent jamais à le regretter tant les épreuves rencontrées leur donnaient un bonus d'énergie, sublimaient hargne et courage, désir d'aller au-delà d'eux-mêmes, de pousser des pions à leur avantage. Ils prirent ainsi un poids économique avec au bord des lèvres un léger sourire de revanche. Récompense du système quand on ne se trompe pas de jukebox. Les journées étaient inondées de soleil et les nuits de fraîcheur. Les chaînes de montagnes et la proximité de nombreux lacs le permettaient. Jonas me fit découvrir des endroits pour se plaire, aimer le monde et s'y plaire. Nous faisions de larges crochets sous le prétexte d'un vieux coup d'œil qu'il souhaitait retrouver en sachant d'avance qu'il en trouverait un autre. Il avait pris le temps, l'urgence du quotidien l'avait quitté, et me remercia. « Sans toi, me disait-il, je m'asphyxiais de devoir. »« Je n'y suis pour pas grand-chose, avais-je répondu. Un hasard plutôt qu'un autre, rien de plus. »« Non, un signe du destin, affirma-t-il. »« Allons bon, pourquoi le contredire? Nos chemins devaient se séparer, autant finir avec une mention d'excellence. » Le jour du départ, nous avions tous le regard humide, conscients qu'un truc sympa s'était passé et qu'il s'envolait. Même Herbert, qui se la jouait dur de dur en fixant un lointain souvenir, les mâchoires anormalement serrées, semblait peiné. Jonas écourta les adieux. Nous repartîmes pour une journée d'asphalte, direction l'embarcadère, où je prendrai le ferry du soir. La première heure, trop content de retrouver son monstre d'acier, Jonas ne pit pas mot. Il conduisait un peu trop vite, restait vigilant, mais sa pensée vivait ailleurs, dans un coin secret, et je voyais bien qu'elle lui brûlait les lèvres. Il se raconta sans pudeur, à mon goût un peu trop. Il se raconta parce que je ne le reverrai pas, et quoi que je pense, il pouvait en dire plus. Le plus qu'il est difficile de dire à ses proches, tant on craint leur jugement. Il souleva le trait de trop. J'en fus agacé. Le trait qui me faisait bondir, que je haïssais, qui puait l'obscurantisme, qui avait cette couleur arrogante, gênante, prégnante. Ainsi, je pourrais partir vers ma destinée sans me retourner avec le sentiment de quitter un ami devenu étranger. L'ordre des choses, ce qui vient à point nommé. Mais pourquoi me le dire à moi, Jonas? Et ce ton confidentiel de cureton poudré à la naphtaline était insupportable. Jonas m'expliqua qu'il priait depuis son adolescence avec une sainte ferveur pour se tirer d'affaire. Un mauvais pas qu'il jugeait être, comme ses pères en l'occurrence imbéciles, une maladie. Il était maudit, devait lutter avec son église qui le soutenait et priait pour lui. Depuis sa puberté, il se battait avec le diable qui l'avait détourné. Et son attirance pour les hommes, péché véniel, déviance maladive, lui pourrissait la vie. Moi, je ne savais que dire, si ce n'est qu'en l'occurrence, je ne voyais pas d'inconvénient à ses penchants. Ses mœurs ne me regardaient pas. Ma foi, la bandaison papa, ça ne se commande pas. Jolin s'était convaincu de sa faute. Il devait se soigner. Je pris le parti du silence, ne me sentant capable de rien pour apaiser ses souffrances. J'étais à la fois déçu par son entêtement à croire n'importe quoi et triste de devoir se quitter sur un autre malentendu. Nous nous séparâmes sans effusion, sans échanger la moindre adresse, avec le désir profond de ne plus jamais nous revoir. Je voyais bien à son air de chien battu qu'il regrettait déjà de s'être confié à un infidèle, peut-être bien un dévoyé, un envoyé de l'esprit malin. Un sans-Dieu qui s'accouplait sans se préoccuper de la morale qui guidait son slip.
C'est une âme égarée. Il porte en lui de lourdes charges. Je m'en veux de ne pas avoir pu l'aider en le guidant sur la bonne voie. Il tourne chacune de mes tentatives en dérision, va jusqu'à refuser toute discussion comme si la vie pouvait avoir un sens sans croyance, sans la foi en son essence même. Il me raille plutôt gentiment, mais je sens bien que mes efforts pour le convaincre de suivre le chemin de notre sauveur l'agacent. Comme notre guide nous le conseille, je lui propose des clés de toutes sortes pour qu'il puisse ouvrir son âme, prendre la bonne route. J'ai l'impression de lui avoir tendu tout un trousseau en vain. Comme il n'est pas idiot, il prend chacune de mes clés, l'essaie, ouvre la porte, passe la tête pour voir un peu, puis la referme en soupirant. Nous nous quittons bons amis. Je ne puis cacher mon amertume. Ce sentiment d'échec me possède de temps à autre. J'y vois la faillite de ma mission. Il n'a pas encore découvert Dieu, n'a pas ouvert son cœur à plus grand que lui. Je m'en veux. Puisse le Seigneur me pardonner.